Belgique, Père Philippe, 21 décembre 1983, Saint-Joseph.
Petite question que je prends tout de suite, puis après nous allons continuer. D'où vient cette inversion que dans l'ordre du vécu, l'expérience est antérieure à l'analyse, et dans l'ordre de la connaissance, l'analyse est antérieure à l'expérience. Si la finalité de la vie humaine est la contemplation, on doit dire que la philosophie spéculative est première. Mais la contemplation nécessite une éducation dont la philosophie pratique est première. C'est la question très délicate, hein, du moins si j'arrive à bien comprendre, entre le point de vue de la philosophie spéculative et de la philosophie pratique. Hein. Ce que nous avions vu en énumérant les diverses expériences. Je crois que l'ordre génétique de la philosophie, c'est ce que nous essayons de faire, à la différence de la scolastique. La scolastique, la philosophie descend du ciel. C'est ça ? Elle est bien heureuse, elle descend du ciel. Non pas comme la Jérusalem céleste, mais elle descend du ciel. Elle descend du ciel parce qu'elle descend de la théologie. Alors elle est déshabillée de la théologie, elle n'a plus le revêtement de la théologie, mais elle descend du ciel. C'est vrai, dans la philosophie scolastique, prenez un manuel, je vous ai dit, c'est bon comme expérience de prendre un manuel de philosophie scolastique pour voir ce qu'est la philosophie scolastique. Il faut savoir, ça fait partie des connaissances historiques. Même si ce n'est pas tout à fait ancien, ce n'est pas ancien. Il y a 50 ans, c'est ce qu'on faisait en philosophie. Commencer la métaphysique par les transcendantaux. Et ainsi de suite. Hein. Je ne vous donne pas l'ordre maintenant. Et puis, on disait d'abord la spéculation, puis la philosophie pratique. Et on disait tout simplement que la philosophie, que les principes de philosophie spéculative, par extinction, ce qui avait toujours une erreur, alors c'est pas par extension, mais c'était par extinction, deviennent pratiques. Alors vous voyez très bien ce que ça voulait faire. C'est que les principes spéculatifs sont appliqués au domaine pratique. Et alors, on a le point de vue pratique. Alors, il n'y avait pas de principe propre. C'était simplement une application, une extension. Et au fond, ça a été vécu comme ça longtemps. La scolastique a été vécue comme ça très longtemps. Jean de Saint-Thomas, qui est le plus grand de la scolastique, qui est un très grand dans la spéculation, au point de vue proprement scolastique, dit ça textuellement. Hein. Alors, comme il y avait, comme disait toujours le père d'eau, la larme de la veuve, parce que c'était l'édition Vives, et alors la larme de la veuve faisait que justement, fit extinctionné, practica. Donc les principes spéculatifs appliqués deviennent pratiques en s'éteignant. Et c'est une bougie qui, petit à petit, la dernière flamme de la bougie, vous savez, ça s'éteint, ça devient pratique. Et c'est la cire qui s'étend. Là, ça devient pratique. C'est une très belle image hein, de voir ce que c'est que la connaissance pratique. Alors que, en réalité, et je crois que c'est ce que nous devons faire, nous devons reprendre à la source la philosophie et non pas la faire descendre du ciel. Reprendre la philosophie à la source, c'est comprendre que la philosophie commence par un point de vue pratique. Parce que nous avons d'abord des expériences d'ordre pratique, et que nos expériences sont pratiques, et que nous devons analyser à partir de là pour avoir le point de vue proprement des principes. Il y a des principes propres au niveau pratique, il y a des principes propres au niveau spéculatif. Et que nous partons toujours de l'expérience pour remonter au principe. C'est ce que nous essayons de faire. Et quand je vous ai rappelé la dernière fois les diverses expériences, nous y reviendrons, j'y réinsisterai. Alors, d'où vient cette inversion ? Que dans l'ordre du vécu. Alors, l'ordre du vécu, c'est pas l'expérience au sens absolu. C'est plutôt, quand on parle de l'ordre du vécu, c'est plutôt nos expériences internes. Si on prend le point de vue du vécu au sens propre, c'est l'expérience interne. L'amour que je sens maintenant, c'est du vécu. L'expérience comme telle, l'expérience externe, n'est pas du vécu. C'est ce que j'ai conscience de cette expérience. Voilà le vécu. Un accident d'automobile, c'est une expérience. Bon, cet accident est vécu diversement. Les personnes qui sont dans la voiture et les personnes qui sont écrasées à l'extérieur, ce n'est pas vécu du tout de la même façon. Alors, la même expérience est vécue diversement. Et puis, il y a le spectateur qui est là, qui va servir de témoin. Et quand il va servir de témoin, il va vivre son expérience autrement. Vous voyez ? Donc, le vécu d'une expérience objective a des répercussions très, très différentes. Ce n'est pas du tout la même chose, le vécu de celui qui fait l'expérience, de celui qui occasionne l'expérience, de celui qui pâtit et de celui qui est spectateur. Je prends toujours cet exemple parce qu'il est très typique et ça, hélas, c'est souvent vécu. Nous avons tous vécu un accident. Et c'est un peu terrible du reste de vivre un accident, mais c'est comme ça. Alors, le vécu, d'où vient cette inversion que dans l'ordre du vécu, l'expérience est antérieure à l'analyse. Oui, forcément. Qu'est-ce qui est source première du vécu ? C'est l'expérience. C'est l'expérience externe qui est antérieure à l'analyse, normalement. Parce que le vécu comme tel peut être décrit, mais n'est pas analysé. Le vécu, c'est ce que vous portez intérieurement. Et c'est vécu au niveau intentionnalité. Au niveau de l'intentionnalité affective, c'est du vécu phénoménologique. Alors il est vécu au niveau de l'intelligence et du niveau affectif. Parce qu'un accident d'un ami dont vous êtes spectateur n'est pas vécu du tout de la même manière qu'un accident dont vous assistez et d'étranger. Vous dites « Ah, c'est un tel qui est dans l'auto, je n'avais pas vu ». Alors, tout de suite, à ce moment-là, il y a une émotion affective énorme qui fait que le vécu change totalement. Oui, et c'est l'affectivité. Et objectivement, c'est exactement la même réalité. Exactement la même réalité, au point de vue. Donc, au point de vue imprudence, ce sera la même imprudence du chauffeur ou de celui qui est écrasé. Quoi. C'est la même imprudence objective. Mais subjectivement, c'est tout à fait différent. Donc, le vécu est toujours subjectif. Toujours. L'ordre du vécu, c'est toujours de l'ordre subjectif. C'est pour ça que je ne peux pas l'analyser. Le vécu comme tel, il est inanalysable. Mais il peut être décrit. Si vous êtes un artiste, alors, à partir de cet accident vécu qui est un ami, vous allez émettre un chant merveilleux à cet ami merveilleux qui meurt de cette façon. Vous avez une élégie extraordinaire qui proviendra de ce vécu, qui sera pris avec une amplitude extraordinaire parce que c'est du vécu. Si vous n'êtes pas un artiste et que vous êtes uniquement affectif, ce seront des larmes. L'avantage du poète, c'est que grâce à l'éveil intellectuel, les larmes se transforment en élégie. N'est-ce pas ? Tandis que lorsque c'est l'affectif, il n'y a pas la transformation, et alors c'est les larmes. C'est vrai, c'est toujours très intéressant de voir comment le vécu a des répercussions différentes chez le poète, chez l'ami, et ainsi de suite. Donc, dans l'ordre du vécu, l'expérience est antérieure à l'analyse. Et dans l'ordre de la connaissance, l'analyse est antérieure à l'expérience. Alors, il faudrait voir un peu ce que ça veut dire. Dans l'ordre de la connaissance, je dirais, quel genre de connaissance? Parce que la connaissance est trop vague. Alors, si vous prenez la connaissance des principes, comme la connaissance des principes, il faut donc préciser, dans l'ordre de la connaissance, connaissance intellectuelle, je présume, dans l'ordre de la connaissance intellectuelle et dans la saisie des principes, l'analyse est antérieure à l'expérience. Parce que, justement, cette connaissance des principes se fait grâce à l'analyse. Alors, dans la connaissance des principes, cette connaissance des principes se fait dans l'analyse. Et donc, l'analyse est antérieure à l'expérience. Mais dans l'ordre de la connaissance intellectuelle liée au sensible, l'expérience est antérieure à l'analyse. Donc, il faut préciser. Oui. C'est bien, dans une objection, dans une question, les choses ne sont pas assez précises, et c'est pour ça que il y a une petite objection. Vous voyez, si la finalité de la vie humaine est la contemplation, on doit dire que la philosophie spéculative est première. Attention. La finalité de la vie humaine est vécue au niveau pratique. Et c'est pour ça que le traité de la contemplation, pour Aristote, est en éthique et pas en philosophie première. La philosophie première est première au plan philosophique, mais pas au plan vie. Qu'est-ce qui est premier au point de vue vie? C'est la vie pratique. Et donc c'est l'éthique. Donc il y a deux priorités, ce que je vous ai dit. Et ça c'est toujours très important. Il y a la priorité spéculative de la connaissance et de la philosophie. Il y a la priorité de l'analyse. Et puis, il y a la priorité du vécu. Alors, on va voir ça au terme. Hein. Je ne vais pas donner tout de suite les solutions maintenant, mais on va comprendre ça progressivement. Alors, je vous dis tout simplement une solution très nette, c'est que le traité de la contemplation chez Aristote, le traité de la contemplation, qui est la fin de la vie humaine, l'homme naturellement est fait pour la contemplation. Le traité de la contemplation, qui est la finalité de la vie humaine, est donné dans Aristote en éthique et non pas en philosophie première. À première vue, c'est très déroutant. On devrait dire, mais le traité de la contemplation devrait être donné en philosophie première. Non. Parce que la philosophie première n'est pas la philosophie pratique. C'est spéculatif. Or, au niveau finalité, ce qui est vécu est toujours ce qu'il y a d'ultime. Et donc, c'est en éthique que doit être donné le traité de la contemplation, et non pas en philosophie spéculative. La philosophie spéculative est pour l'homme, et non pas l'homme pour la philosophie spéculative. Ce qui est aussi très important, je vous ai dit au début de l'année. Au début de l'année, je vous ai dit la différence entre la philosophie pratique et les idéologies, c'est que la philosophie est au service de l'homme. La philosophie est pour que l'homme puisse mieux vivre. Tandis que les idéologies, c'est l'homme qui est au service des idéologies. Les idéologies dominent l'homme. Et c'est pour ça, quand on a des gens politiciens qui sont des idéologues, c'est terrible. Parce qu'ils ne font aucune attention à l'état du pays. Ils ne regardent que leur idéologie. Alors, ils peuvent mettre un pays dans une situation invraisemblable. Ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut que l'idéologie domine. Parce que c'est l'idéologie qui commande tout. Il faut le savoir. Il faut savoir ces choses-là. C'est là on voit tout de suite la différence entre une idéologie et la philosophie. La philosophie est au service de l'homme et l'idéologie domine l'homme. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'idéologie. Il faut avoir une philosophie saine pour lutter contre les idéologies. On m'avait demandé, quand j'étais à Fribourg, c'était un groupe d'intellectuels, architectes, ingénieurs, je ne sais pas trop quoi encore, médecins, diplomates, un groupe genevois, qui chaque année se réunit, ça invite comme ça quelqu'un. Alors il m'avait invité à dire « Quelle est votre idéologie pour l'an 2000 ?» C'est très bien. J'ai accepté, parce que c'est un sujet merveilleux. Quelle est votre idéologie pour l'an 2000 ? J'ai dit, je n'ai pas d'idéologie et je suis contre toute idéologie. Et puis j'ai essayé de leur expliquer. Je ne sais pas s'ils ont compris grand-chose. Ça n'avait pas d'importance pour moi. C'était l'occasion de leur montrer que entrer dans les bateaux de l'idéologie, c'était une bêtise. Il fallait redécouvrir une philosophie saine. Il y a eu une bonne discussion après, parce qu'il y avait des idéologues dans la salle. Ce n'étaient pas des philosophes, mais c'était des idéologues. On peut être ingénieur et avoir une idéologie. Une idéologie marxiste, une idéologie socialiste, une idéologie positiviste, une idéologie, il y en a beaucoup. Hein. Les idéologies, elles sont nombreuses. Et alors, montrer que l'idéologie n'est pas une philosophie. Parce que la philosophie regarde l'homme comme un absolu. Alors, l'idéologie relativise l'homme à l'idée. Il faut arriver à comprendre ça. Ça, c'est très, très important. C'est très important de comprendre ça. Il faut faire attention dans le monde d'aujourd'hui, ne pas dire ça de façon trop, trop verte. Au baccalauréat, il ne faut pas dire ça. Parce que si vous dites ça au baccalauréat, vous êtes sûr d'avance d'être calé. Alors, il faut dire au contraire, l'idéologie pour l'an 2000, c'est... la synthèse de toutes les idéologies modernes qui doivent arriver à une idéologie nouvelle. Et alors on fait du baratin, et alors à ce moment-là, on dit qu'on est un type intelligent, puisqu'on est entré dans le baratin moderne, n'est-ce pas ? Alors c'est très bien. Mais autrement, il faut comprendre que dans la vérité, le point de vue de l'idéologie a servi l'homme, alors que la philosophie ennoblit l'homme. Elle est au service. Si la philosophie est au service de l'homme, on comprend que la finalité de l'homme se trouve dans la philosophie pratique. Tandis que si j'avais une idéologie, je trouverais au terme de la philosophie spéculative, je trouverais la finalité de l'homme. Ceci, c'est pour simplement répondre à ces quelques questions. Alors, je reprends. Le problème que nous avions commencé la dernière fois, et je vais très vite ici, parce que c'est une chose que vous verrez progressivement, mais c'est bon d'avoir quand même au point de départ les axes d'une philosophie réaliste. Alors, premier axe de la philosophie, premier axe, je dis axe, parce que je n'aime pas dire système. Donc, première orientation de pensée, une orientation pratique. Je commence par l'expérience du travail. Le travail, c'est ma grande expérience. Il n'y a qu'à reprendre les notes de la dernière fois. Le travail. Personne, je crois, ici présent, et je crois que même parmi n'importe quel public, vous pouvez toujours dire que l'homme a l'expérience du travail. Parce que le jeu est un autre travail. C'est vrai, ça. C'est une autre sorte de travail. Jouer pour se détendre. Jouer pour faire passer le temps. Alors, heureusement, quand on a beaucoup de choses à faire, on n'a plus besoin de jouer pour faire passer le temps. On joue pour autre chose, pour se détendre, le travail. Cette grande expérience du travail conduit à cette orientation particulière de la philosophie du Thatcher. La philosophie du Thatcher. je vais dire facturé, dire philosophie, du travail, philosophie de la réalisation artistique. Donc je pars de cette expérience. Et cette expérience me conduit à l'analyse, parce qu'il y a de philosophie que lorsque je saisis les principes propres. Pas de philosophie tant que je ne saisis pas les principes propres. Puisque la philosophie doit avoir une structure scientifique au sens de la science aristotélicienne. Ne confondons pas. Et nous avons le droit de maintenir le mot, parce que le mot « science » chez Aristote est plus ancien que le mot « science moderne ». Et c'est la science moderne qui aurait dû prendre un autre mot. Hein, ça, comme ça. Vous n'avez pas le droit de choper et de prendre dans la poche du voisin quelque chose qu'il a déjà vu. Alors, le mot « épistémé » est très ancien. Il est grec. La science est née en Grèce. Tout le monde le reconnaît, ça. Vous voyez, jeunesse de la philosophie grecque, naissance de la science chez Ré. Ce sont toutes des choses qu'on nomme qui sont très intéressantes. La science est née en Grèce. Et les Grecs disent elle est née en Égypte. C'est vrai. Elle est née en Égypte. Elle est née avec les pyramides. Elle est née avec les pharaons. Et Aristote dit, elle est née grâce à la caste sacerdotale qui avait des voisins. Il faut reconnaître que la science est ecclésiastique. Parce qu'elle est née dans la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Aristote dit ça, et c'est comme bien comme donné. C'est intéressant. C'est intéressant. Reconnaissez au moins. La science a une petite saveur religieuse à son point de départ. C'est intéressant parce que ça montre que la science a une saveur religieuse, l'art a une saveur religieuse, la philosophie a une saveur religieuse. Et dès que je supprime l'aspect religieux, il n'y a plus de science, il y a du rationalisme, il n'y a plus d'art. Et il y a l'art pour l'art. Et donc l'art très vite meurt. Il n'y a plus de philosophie. C'est très curieux ça. Ce qui montre combien l'homme est profondément un animal religieux. Parce que la science a commencé avec le point de vue scientifique, avec le point de vue religieux, l'art a commencé avec un point de vue religieux, et donc dès qu'on reprend les choses, vous voyez, c'est intéressant de voir ça, il ne faut pas hésiter de le dire aujourd'hui, parce que les gens sont obligés de le reconnaître. Ils sont obligés de le reconnaître. Ça fait partie des choses du monde d'aujourd'hui, tandis qu'au XVIIIe siècle, on n'aurait pas pu le dire. Au XIXe siècle non plus. C'est tout à fait moderne de dire ça. Mais c'est le bon point de vue moderne. C'est de reconnaître que la science tombe dans un rationalisme et une infécondité quand elle perd ses racines qui sont au-delà du rationnel. L'art, c'est la même chose. Et la philosophie aussi. Donc, l'expérience du travail. Deuxièmement, l'expérience de l'amour d'amitié. Cette expérience de la philosophie conduit à la philosophie de la vie, c'est-à-dire l'éthique. Alors évidemment ici, la même chose, il y a une analyse et la saisie des principes propres. Alors je ne donne pas ici les principes propres, je ne veux pas m'attarder sur ce point de vue-là, mais c'est intéressant de voir ces deux expériences. Sont les deux expériences les plus extrêmes de l'homme. L'expérience de l'efficience, l'efficacité. Quand on travaille, on veut qu'il y ait une efficacité. Le travail aboutit à l'œuvre. Il y a un fruit. Tandis qu'au contraire, l'amour d'amitié, c'est la fécondité. Cette espèce de dilemme entre efficacité et fécondité. D'un côté, on montre la grandeur de l'efficacité, et d'autre côté, on montre la noblesse de la fécondité. Je dis bien la grandeur de l'efficacité. Ça se mesure, l'efficacité. La fécondité, ça ne se mesure pas. Mesurer la fécondité, ça prouve qu'on n'a rien compris à la fécondité. Alors c'est de l'ordre de l'efficacité. On réduit la fécondité à un planning familial. Ça prouve qu'on n'a rien compris. Il faut le dire à ces braves gens qui sont un planning familial. Parce que si vous aviez compris que ce c'est que la fécondité, vous comprendrez qu'on ne peut pas la mesurer. Et on ne la mesure pas. On ne peut pas la mesurer. C'est de l'ordre de l'efficacité. Je veux dire, c'est de l'ordre de la fécondité. Donc ça ne se mesure pas. On mesure au contraire l'efficacité, parce que l'efficacité implique quelque chose de mesurable et quelque chose qui conduit vers le point de vue de la grandeur. Troisième expérience, le point de vue de la coopération. La coopération conduit à une philosophie de la communauté. Vous avez la troisième finalité, la philosophie de la communauté. Donc, philosophie du facere, philosophie de l'agir, philosophie de la communauté. Et la philosophie de la communauté, c'est d'une certaine manière une synthèse des deux. Quand je dis synthèse des deux, ça présuppose les deux autres. Et il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, il y a l'expérience nouvelle. Et c'est pour ça qu'il y a un principe nouveau. C'est ça qu'il faut comprendre. Quel est le principe nouveau qui existe dans cette philosophie de la coopération? Tout le séminaire sur la politique que nous ferons cet après-midi, pour ceux qui y assistent, c'est essayer de comprendre progressivement ce que c'est que la philosophie de la communauté, la philosophie politique. Et comprendre dans quelle mesure ça repose sur une expérience nouvelle, la coopération. La coopération, c'est ni l'amitié, ni le travail. C'est autre chose. Je peux travailler seul, je peux travailler avec quelqu'un. Je peux travailler avec quelqu'un qui m'aide dans mon travail. Je peux travailler avec quelqu'un qui ferait mon travail. Comme c'est ennuyeux de travailler avec celui-là, parce que je vais trois fois moins vite. Comme c'est merveilleux de travailler avec celui-là, parce qu'alors je suis intelligent quand je travaille avec lui. Non, c'est vrai, on a des réactions comme ça. La coopération, l'expérience de la coopération. Donc nous sommes ici en présence de ce qu'on appellera la philosophie pratique. Je crois que toute philosophie réaliste commence par ces trois aspects de la philosophie pratique. Donc ça, c'est le triangle de base. Je crois que c'est important de voir ce triangle de base. Tout repose là-dessus. Il faut y revenir tout le temps. C'est la philosophie du travail, la philosophie de l'amour d'amitié, la philosophie de la coopération. Ça, c'est la philosophie pratique. Vous voyez comme c'est cette philosophie pratique est comme, je dis bien comme, une anthropologie. Parce qu'au fond, c'est les trois premières dimensions de l'homme. L'homme est travailleur, homo faber. L'homme est capable d'amitié, homo amicus. Et l'homme est un animal politique, homo politicus. Vous avez les trois dimensions de l'homme. Et donc, vous avez l'anthropologie dans ce qu'elle a de fondamental. La philosophie est une anthropologie dans ce qu'elle a de fondamental. Ça ne peut pas être autrement. Elle est fondamentalement une anthropologie. J'aime mieux, parce que le mot anthropologie, vous savez qui l'a inventé, c'est Kant. Alors, il y a toujours une petite saveur kantienne dans l'anthropologie, une petite saveur donc. Faire attention, j'ai pas envie de voler à Kant son terme anthropologie. Parce que Kant, quand il a dit anthropologie, eh bien de fait, il lui donne une autre saveur, une autre signification. Alors ne faisons pas la même chose que les savants par rapport au mot science. Je crois qu'il faut toujours être très respectueux. Quand quelqu'un invente un nouveau mot, il faut respecter le contexte dans lequel ce mot. Il faut aussi comprendre que ce mot peut déborder le contexte. Aujourd'hui, anthropologie, c'est plus Kant, c'est tout à fait différent. C'est tout ce qu'on veut. N'est-ce pas? Cours d'anthropologie. C'est tous les philosophes. Cours d'anthropologie. Alors je pourrais dire anthropologie. trois modalités de l'anthropologie. Et c'est très juste, parce que c'est trois manières de regarder l'homme. C'est trois manières de regarder l'homme, c'est trois manières de saisir l'homme, et de saisir l'homme dans son unité. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment ces trois parties de la philosophie pratique réclament, et c'est ça qu'il faut saisir, réclament une analyse plus poussée. Je ne peux pas rester à ce niveau pratique si je veux aller jusqu'au bout. Je dirais l'inverse de la scolastique, que la philosophie pratique réclame la découverte de la philosophie spéculative. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La philosophie pratique réclame la découverte de la philosophie spéculative. Parce que la philosophie spéculative est plus analytique, c'est-à-dire un effort d'analyse plus poussé que la philosophie pratique. La philosophie pratique va moins loin dans l'ordre de l'analyse que la philosophie spéculative. Or, ici, je vois que le travail implique toujours la coopération de la matière qu'on retrouve dans l'œuvre. L'œuvre, c'est la synthèse de l'idée et de la matière. C'est ça l'œuvre. C'est toujours une synthèse d'une idée et de la matière. Une synthèse qui se fait par l'homme. L'homme, quand il invente quelque chose, quand il fait une œuvre, met une œuvre culinaire. La guerre de Paris, vous analysez la matière et puis vous voyez l'idée. C'est une matière, c'est du chocolat. Mais il y a mille manières de le présenter. Alors vous avez une idée. C'est la même chose pour une construction. Il y a une idée. Alors, quelquefois, il y a des idées juxtaposées. Bâtiments qui sont mis les uns à côté des autres. Et c'est pour ça qu'il est difficile de saisir la synthèse. Quelquefois. Hein. Alors on voit très bien que les idées se sont juxtaposées les unes à côté des autres. Ou en grandeur, ou en profondeur, ou en largeur, ou en hauteur. C'est des choses différentes. Bon, il y a la matière. Le travail implique toujours la matière. Si je pousse jusqu'au bout mon analyse, je dois comprendre que l'analyse pratique ne regarde la matière que dans sa capacité d'être transformée. Le travail ne regarde la matière que comme capacité de transformation. Or, la matière peut être connue pour elle-même. Si la matière peut être connue pour elle-même, il y a donc quelque chose de nouveau et d'une certaine manière d'antérieur à la connaissance propre du travail. Vous voyez ça constamment quand vous avez de vrais artistes, un sculpteur, un vrai sculpteur. J'ai vu ça, la manière dont ça m'a beaucoup intéressé, parce que ça donnait à part mode d'expérience ce que philosophiquement on regarde. C'est toujours important. Vous voyez, c'est là où on voit la place de la philosophie de l'art. La philosophie de l'art m'introduit plus à la philosophie de la matière et donc à la philosophie de la nature que la science moderne. Et c'est ça qu'il faut savoir aujourd'hui. Très très important. Eh bien, c'était un sculpteur, un breton sculpteur, hein, du granit, et qui venait au Solgeoir, notre couvent d'études, sculpter une Vierge Marie. Jusque-là, en bon breton, il n'avait sculpté que des animaux. Et on lui demandait de sculpter une Vierge Marie. Il était profondément chrétien, mais il disait, je sculptais des animaux, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors il lui dit, mais quand même, voyez, il a dit, bon, je vais venir vivre 6 mois avec vous. Alors, je comprendrai. Parce qu'il voulait, on lui avait demandé de sculpter une Vierge pour le cloître. grand sculpteur, il m'a dit, je veux, parce qu'il vivait avec nous, moi ça m'intéressait beaucoup, parce que lui, chaque fois qu'on faisait le tour, j'avais dit bonjour, ça m'intéressait de voir la manière dont il sculptait. C'était un bon sculpteur, un vrai sculpteur, qui aimait son métier, qui faisait des choses qui n'étaient pas mal du reste, qui étaient vraies. Alors il m'a dit, quand je voudrais avoir mon granit, j'irai le choisir moi-même. Il faut le prendre à la carrière. Il faut le saisir à la carrière pour être sûr qu'il soit bien, qu'il n'y ait rien. Donc, la connaissance de la matière avant la sculpture. Ben, tout homme sensé comprend ça. Il y a des marxistes qui ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'art. Et là, c'est sauté le marxisme, tout de suite. Tous les grands artistes ne peuvent pas faire le marxisme. Parce que de fait, pour le marxisme, il n'y a de connaissance de la matière qu'en fonction du travail. Matière et travail sont pris dans une espèce de perspective dialectique, idéologique. Et les deux se tiennent réciproquement. Je ne peux pas regarder la matière pour elle-même. Alors si je ne peux pas regarder la matière pour elle-même, je ne peux pas être un artiste. Il faut connaître la matière. Un menuisier, il connaît son bois. Il sait tout de suite quel bois il faut. Je lui dis, ah non, ça n'a aucune espèce d'importance. Il suffit que ce soit une matière transformable. Et vous rire au nez. C'est une espèce d'imbécile. Il faut connaître ce que c'est que ce bois. Tel bois ou tel bois, il faut le connaître. La matière, c'est très vrai que la matière au niveau du travail se définit comme ce qui est transformable dans l'avenir du travail. Et c'est la définition marxiste du travail, de la matière. Tandis que si je veux être réaliste, je dis avant la transformation de la matière, il faut une connaissance propre de la matière. Il y a une expérience propre de la matière. Et cette expérience me donne une connaissance particulière de la matière pour elle-même. Ça, c'est capital de comprendre ça. Parce qu'une fois que vous comprenez qu'il y a une connaissance de la matière pour elle-même, et non pas de la matière tant qu'elle est capable d'être transformée, vous comprenez qu'il peut y avoir à partir de là une philosophie qui n'est plus d'ordre pratique et qui sera d'ordre spéculatif. C'est la naissance de la philosophie spéculative. Et la naissance de la philosophie spéculative, c'est de comprendre que la matière peut être connue pour elle-même. Ça, c'est capital dans notre monde d'aujourd'hui. Un des grands aspects aujourd'hui, il faut bien reconnaître, c'est que des quantités d'intellectuels sont marxisés, sans nécessairement faire partie du Parti communiste. C'est deux choses différentes. Hein. Parce qu'on peut être socialiste étant marxiste, c'est plus distingué, n'est-ce pas ? C'est mieux. C'est plus intellectuel, alors, c'est plus idéologique. Alors on peut très bien faire partie de... Mais on est marxisé. Or, être marxisé, c'est une idéologie. Et donc, c'est une diminution de l'homme. Pourquoi ? Parce que je ne reconnais pas qu'il y a une connaissance antérieure à la transformation de la matière. Il y a une connaissance de la matière pour elle-même. Et cette connaissance de la matière pour elle-même, elle se fait tout simplement par l'expérience ordinaire. C'est l'intelligence liée au toucher. C'est l'intelligence liée au toucher. C'est ça, la connaissance de la matière. L'intelligence plus le toucher. C'est là où je découvre quelque chose qui est autre que mon intelligence et qui est antérieur à mon intelligence. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et le plus petit que nous, c'est la matière. Toute espèce de matière. Alors vous voyez, c'est très très important de comprendre comment on doit arriver à rompre la confusion de l'idéologie marxiste qui veut tout ramener à une dialectique sans distinguer connaissance pratique et connaissance spéculative. Vous connaissez, vous savez bien que pour un marxiste, pour un communiste, on n'a pas le droit de distinguer la connaissance pratique de la connaissance spéculative. Le professeur Lefebvre, 10 ans après la guerre, a écrit un livre sur l'état du communisme en France. Il en faisait connaissance spéculative. On l'a barré du parti. Par exemple, il n'est plus marxiste en France. Un marxiste n'a pas le droit de distinguer une connaissance spéculative d'une connaissance pratique. Il vit son marxisme. Ben, le marxisme change, c'est bien évident. Il n'a pas le droit de faire la critique du changement du marxisme. Faire la critique du changement du marxisme, c'est se mettre en dehors de la dialectique. C'est très significatif, ces choses-là. Et c'est très intéressant à noter, parce que ça montre bien qu'il ne peut pas y avoir, dans une idéologie marxiste, et dans toute espèce d'idéologie, la connaissance du pratique et du spéculatif. Et une des choses les plus importantes à réaliser aujourd'hui, c'est de redécouvrir par nous-mêmes, pas seulement de la redire, hein, redécouvrir la distinction entre la connaissance pratique et la connaissance spéculative. Distinction qu'Aristote avait fait face à Platon. Platon ne distingue pas les deux. Non pas parce qu'il... Ben, tout simplement parce qu'il n'a pas eu besoin de les distinguer. Platon ne distingue pas les deux. Aristote distingue connaissance pratique et connaissance spéculative. Les stoïciens ne distinguent plus. Les idéologues d'aujourd'hui ne distinguent plus. Si on veut une connaissance réaliste, on doit arriver à distinguer l'expérience du travail qui me donne une certaine connaissance de la matière et la connaissance de la matière pour elle-même, antérieure au travail. Autrement dit, la matière n'est pas seulement connaissable par le travail, elle est connaissable par elle-même. Et c'est là qu'on voit comment le marxisme, au fond, est en opposition avec toute la science. Parce que la science reconnaît qu'il y a une certaine intelligibilité dans le monde physique. Ce qu'est une science physique. Je connais la Lune. Je la transforme, je ne vais pas transformer la Lune. Je connais un peu les étoiles. Quand un astrologue vous parle des étoiles, il sait ce que c'est. Quand il dit, ah, non, vous ne pouvez la connaître que si vous la transformez. Et alors, vous voyez, elle est dans la vie pratique. Si vous dites, je connais telle personne que dans la mesure où elle est mon client psychanalytique. Si je n'ai, elle n'est pas mon client psychanalytique, une connaissance spéculative antérieure à la transformation que j'ai sur la personne. C'est très important de comprendre ça. Il y a une connaissance antérieure, c'est le respect à l'égard de l'autre. Respecter l'autre, c'est de savoir qu'il y a une connaissance de l'autre antérieur. Je le connais pour lui-même. C'est ça la connaissance spéculative. C'est de le connaître pour lui-même. C'est de le connaître en lui-même, tel qu'il est. C'est connaître l'autre. Bien, il y a cette expérience de la matière. Si je pousse cette expérience, je découvre la philosophie de la matière. La philosophie de la nature. Et j'assiste à la naissance de la philosophie spéculative. Alors, je crois que c'est très important pour nous, hein, de comprendre que la philosophie de la nature, que la la philosophie de la matière, mais à partir de la philosophie du travail, et non pas à partir de la science physique d'aujourd'hui. On pose toujours le problème par rapport à la science physique d'aujourd'hui. Et je crois que si vous posez par rapport à la science physique d'aujourd'hui, vous n'en sortez pas. Et vous ne pourrez pas en sortir. Alors vous dites la philosophie de la nature, c'est une généralisation de la physique. Qu'un intérêt de généraliser une physique, une science. Généraliser une science, c'est tomber dans la logique. La seule possibilité de généraliser une science, c'est la logique. Parce que la logique commence par l'universel. Ça n'a aucun intérêt. Il faut au contraire comprendre qu'il y a une expérience particulière de la matière pour elle-même. Et cette connaissance particulière de la matière pour elle-même me conduit à la philosophie de la matière, philosophie de la nature, qui est la connaissance, donc philosophie spéculative. De même, l'amour d'amitié me met en présence de la mort. La mort de l'ami. Et la mort de l'ami est une expérience qui me conduit à l'expérience du vivant. Je peux connaître le mort que par le vivant. Et j'ai la seconde partie de la philosophie spéculative, la philosophie du vivant. Nous avons donc ces cinq parties de la philosophie. Et chaque fois, une connaissance particulière de l'homme. Parce que c'est intéressant de comprendre cela. Chaque fois, une connaissance particulière de l'homme. Chaque partie de la philosophie.